Célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Rimbaud. Pas sérieux et très souvent rebelle, mal dans sa peau, désemparé de voir son corps changer. L'adolescence est une période délicate à traverser, une zone de turbulence qui secoue parfois le cercle familial. Car pour les parents, se retrouver face à un ado agressif, suspendu à son smartphone, muré dans le silence, en échec scolaire, déprimé ou anorexique n'est pas facile non plus. Alors entre l'accident et rigidité, comment gérer les adolescents? On va tenter d'esquisser quelques pistes avec le docteur Lélia Benoît. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à la maison des adolescents de Cochin, maison de Solène à Paris, et vous avez publié « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» aux éditions Recherche. Nous discuterons également avec le docteur Lamine Fall, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fan à Dakar. Alors pour poser vos questions, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 75. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons un nouveau succès de thérapie génique, 22 patients atteints de bêta-thalassémie et traités en France, aux États-Unis, en Thaïlande et en Australie ne sont plus contraints de subir chaque mois une transfusion sanguine, une révolution dans leur vie, nous racontera Isabelle André Schmutz, chercheur à l'Institut Imagine.
RFI.
Docteur Lélia Benoît, à quel âge commence cette période transitoire et compliquée? Quelle adolescence?
Alors l'adolescence, il n'y a pas vraiment d'âge, hein. On dit souvent entre 11 et parfois 18, 20 jusqu'à 25 ans maintenant, quand on prend plus de temps à devenir adulte. On pourrait dire quand même que l'adolescence, c'est le moment où le corps se transforme et devient adulte, on devient pubère, et ça entraîne tout un tas de changements dans le rôle de ces enfants qui deviennent grands et puis la manière dont ils se voient.
Alors des changements au niveau physique, ça c'est le plus évident, mais des changements au niveau physiologique et psychologique aussi.
Tout à fait, le cerveau se remanie, beaucoup de reconnexions se font, cet adolescent est peut-être fatigué par ça, et également les changements hormonaux qui vont lui prendre beaucoup d'énergie.
Est-ce que la puberté est plus déstabilisante pour le garçon que pour la fille ?
Je ne pense pas, non. En revanche, les deux sexes sont soumis à des changements hormonaux qui sont brutaux et différents. Ce qu'on oublie parfois, c'est que la puberté est aussi déstabilisante pour les parents et pour les adultes, puisque jusque-là, on avait un petit enfant et d'un coup, on a un adulte. Alors, on ne sait plus vraiment comment se positionner. Est-ce qu'on peut le prendre pareil dans les bras? Est-ce qu'on peut lui faire des câlins ou plus? Et finalement, ça, les adolescents le perçoivent beaucoup aussi, la gêne des adultes quand ils commencent à avoir un corps d'adulte eux aussi.
Mais on peut rappeler ou souligner en tout cas que le passage à l'adolescence, ce n'est pas une maladie.
Absolument pas, ça fait partie de la vie, de grandir.
Donc il faut peut-être dédramatiser aussi cette période.
Tout à fait. Et puis l'adolescence, c'est le changement corporel, mais c'est aussi le changement social. Et ça, c'est beaucoup plus long et compliqué dans nos sociétés à l'heure actuelle.
Est-ce que la crise, enfin ce qu'on appelle souvent la crise d'adolescence, est inéluctable ?
Alors, les anthropologues diraient que elle n'existe pas de la même manière dans toutes les sociétés, qu'elle est plus ou moins rapide, plus ou moins lente, avec des rituels qui sont différents. Donc, quelque part, oui, le changement est inéluctable. La manière dont il se passe, ça dépend beaucoup de là où on vit et de comment ça se passe. Voilà.
Parce que les parents, pour qui tout se passe bien, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter si leur enfant devient un ado sans problème particulier?
Alors ça, c'est un des mythes habituels. Effectivement, les psychologues, Anna Freud disait elle-même qu'un adolescent normal, ça devrait inquiéter ses parents, que probablement c'est comme l'eau qui dort, hein, il faut se méfier, peut-être que quelque chose va survenir, que cet adolescent ne réussit pas à exprimer ses conflits. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter inutilement si tout va bien. Après, on a parfois des adolescents qui vont très bien à un moment donné, et puis plus tard, sur une autre chose, une crise va se passer, puis à ce moment-là, il faudra être disponible.
Alors, qu'est-ce que recherche l'adolescent quand il commence, par exemple, à se rebeller, à contester l'autorité de ses parents comme de ses professeurs ?
Alors, l'adolescent recherche une autonomie, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il est plus enfant, il a compris que l'attitude des adultes a changé aussi vis-à-vis de lui, mais il ne connaît pas encore les règles du jeu pour les adultes. Alors, il les teste un petit peu, il cherche sa place, et donc il faut l'accompagner pour lui trouver la bonne place, l'aider à s'épanouir sans être trop coercitif non plus.
Mais on va rejoindre Anna Freud. Vous pensez-vous quand même que l'émancipation passe par la rébellion, la transgression ?
Alors, l'étymologie du mot crise, et donc c'est changement. C'est-à-dire, toute crise, c'est un changement. Donc, évidemment, quand on va devoir changer de place, il va y avoir une période de crise où finalement, tout le monde est obligé de se réajuster autour, y compris les parents qui vont devoir changer de mode de relation, ne plus être verticaux, ça veut dire c'est moi qui décide parce que je suis plus âgée, mais je peux te conseiller parce que je suis adulte avec plus d'expérience que toi, mais surtout, je t'accompagne et on sera bientôt adultes ensemble et on va s'accompagner dans la vie.
Nous avons intitulé cette émission « Entre laxisme et rigidité, comment gérer les adolescents ?» D'abord, est-ce que le mot « autorité » est un gros mot pour les pédopsychiatres ?
Alors non, je ne pense pas. Il avait été beaucoup remis en question il y a quelques années. Maintenant, il revient un petit peu plus à la mode. Je pense surtout qu'il y a une confusion entre l'autorité et la rigidité. C'est pas la même chose. En fait, l'autorité, c'est rassurant pour l'enfant. L'autorité, ça veut pas dire qu'on doit être craint par l'enfant ou qu'on lui impose des choses parce qu'on lui fait peur. Pas du tout. C'est parce qu'on lui montre l'exemple et c'est un exemple de compétence. C'est parce qu'on a plus d'expérience en tant qu'adulte, qu'on a vécu plus longtemps, on connaît mieux la vie, qu'on peut être plus digne de confiance pour guider l'enfant. Mais c'est aussi la fiabilité. C'est-à-dire qu'on annonce ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Ça, c'est très important pour l'enfant. Ça fait partie de l'autorité.
Mais est-ce que ce terme d'autorité n'est pas aujourd'hui aussi un mot qui fait peur aux parents, qui du coup auraient tendance à se montrer trop laxistes ?
Tout à fait, il y a beaucoup de parents qui craignent les réactions de l'enfant et qui craignent que l'autorité conduise l'enfant à avoir le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas avoir été assez soutenu. Et ça peut être des parents qui ont eux-mêmes été victimes, en tout cas, d'une éducation trop rigide ou trop violente et qui vont pêcher de l'autre côté en pensant que s'ils contraignent leur enfant, alors ils ne l'auront pas aimé, ce qui est faux.
Ils ont peur de ne plus être aimés par leur enfant, s'ils se montrent trop sévères, c'est ça ?
Tout à fait, de ne pas être aimés par leur enfant ou de ne pas leur avoir, eux, donné assez d'affection non plus.
Et alors du coup, le parent copain, ça c'est une sombre erreur ?
Oui, tout à fait, puisque le parent doit pouvoir rassurer l'enfant sur les barrières de la vie, c'est-à-dire quelles sont les règles à respecter. Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour être aimé par ses enfants. Hein, il faut pouvoir imposer un petit peu son expérience.
Alors, comment être souple sans être laxiste ? Comment fixer des règles, des limites sans verser dans l'autoritarisme ? La répression ou les menaces, finalement, c'est ça le défi ?
C'est ça. Le défi, c'est de se dire que il y a quelque chose qu'on veut éviter pour l'enfant, c'est ce qu'on appelle la carence affective. Voilà. Et la carence affective, qu'est-ce que ça ? C'est trois choses. C'est le manque de maternage, le manque d'empathie et le manque de protection. Le manque de maternage, c'est on n'a pas été assez bercé, réconforté, pris dans les bras, câliné.
Et ça, c'est dans la petite enfance. Alors.
Dans la petite enfance, ça peut même être à l'adolescence, hein, ça dépend, mais en tout cas de savoir qu'il y a cette disponibilité, cette chaleur. L'empathie, c'est est-ce que nos parents nous comprennent ? Est-ce qu'ils comprennent notre univers, nos sentiments ? Est-ce qu'ils sont à l'écoute ? Est-ce qu'ils sont disponibles ? Et la troisième chose, qui est la protection, c'est, et ça c'est très important pour comprendre ce que c'est que le laxisme, c'est la protection, c'est pouvoir donner des conseils, pouvoir orienter l'enfant, le rassurer et lui porter secours. Et donc là, on voit que dans le laxisme, quand on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, on manque quelque chose, on manque la partie protection dans la carence affective, parce qu'on ne guide pas l'enfant, on lui donne pas de conseils. Même si on le materne, on le chouchoute et qu'on essaie de le comprendre, on le guide pas, donc on le rassure pas.
Alors, on va donner la parole à nos auditeurs. Liliane, vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes... Liliane, vous êtes enseignante au collège et vous avez du mal à vous faire respecter en classe, c'est bien ça ?
Oui, je suis enseignante au collège depuis quelques années, mais cette année, pour la première fois, j'ai eu des classes de 4e et 3e. Alors, je n'en sors pas très bien avec eux. J'ai beau faire les gros yeux, crier, ça ne marche pas. Je n'ai jamais le bon ton ou la bonne attitude et j'aimerais bien avoir des astuces pour mieux communiquer avec eux. Que moi, j'y arrive pas du tout.
Alors, là, il y a Benoît, est-ce que vous avez des astuces à donner à Liliane ?
Oui, alors déjà, je pense qu'il faut prendre un petit moment pour réfléchir à notre propre éducation. C'est-à-dire, Liliane, comment est-ce que vous avez été éduquée? Comment étaient vos parents avec vous? Est-ce qu'ils étaient très sévères? Est-ce qu'ils étaient très gentils? C'est important de savoir ce qu'on a connu parce que c'est quelque chose avec lequel on est familier. Parfois, si on a eu des parents très sévères, eh ben, on va avoir du mal à être sévère avec les enfants parce qu'on a peur comme ça d'être trop agressif. Donc, c'est important de savoir d'où on vient. Et puis ensuite, c'est important d'être rassuré sur le fait que oui, on est adulte. Même si vous avez 30 ans, que vous êtes jeune, que vous avez l'air jeune, en fait, vous avez déjà de l'expérience de la vie, vous êtes compétente et vous avez des valeurs. Il y a des choses pour vous qui sont importantes, hein, qui vous prennent aux tripes, comme on dit, c'est-à-dire, bah non, on répond pas de manière insolente, non, on jette pas des choses par terre. Ça, c'est des choses que vous avez apprises et c'est important de sentir ça parce que vous pouvez le transmettre aux autres et vous êtes en droit de le transmettre. C'est ça l'autorité aussi.
Ça veut dire que Liliane doit se montrer très sûre d'elle, même si à l'intérieur, elle a peut-être beaucoup de questions.
Alors, pour pouvoir se montrer sûre d'elle, il faut d'abord qu'elle soit sûre d'elle. C'est-à-dire qu'elle prenne ce temps-là pour vraiment sentir que, oui, elle est légitime en fait. Elle est professeure, elle a son diplôme, elle a vécu et elle a toute légitimité pour expliquer aux enfants comment se comporter en classe.
Liliane, vous vous sentez légitime en tant que professeure?
À veut dire pas si les troisièmes, il y a des jours où je me demande ce que je fais là. Ah. J'ai l'impression qu'ils arrivent à lire sur mon front et la peur celle-là.
Alors, ce qui est important aussi et qui manque parfois aux professeurs, c'est d'avoir du collectif. Ça veut dire d'avoir d'autres enseignants qui peuvent nous écouter, nous comprendre et savoir qu'on est plusieurs adultes confrontés à cette difficulté, qu'elle n'est pas toute seule. Elle peut demander conseil à ses collègues, effectivement.
Alors, merci beaucoup Liliane. Bonne journée à Yaoundé. On va prendre maintenant Camille qui nous appelle de Barcelone en Espagne. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Alors, votre famille est recomposée et vous avez du mal à communiquer avec votre belle-fille.
Disons que j'y arrive, mais ce que je n'arrive pas à maintenir, c'est qu'il y ait une négociation, une flexibilité, une liberté. Je retombe vite dans le contrôle, dans les exigences de temps, de faire comme ci, faire comme ça. Et donc, c'est un va-et-vient constant. C'est-à-dire que si moi je fais attention à pouvoir bien laisser l'espace au dialogue, ça va bien. Mais évidemment, bah, l'adolescent bah, laisse les choses traîner, pense à lui et à lui, etc. Et il y a un contexte familial général. Et là, je perds patience et donc je repasse dans le contrôle. Et évidemment, l'adolescent, dans ce cas-là, c'est une adolescente, elle retombe vite dans... soit elle proteste un peu, mais elle est plus ou dans la soumission ou elle... Voilà, j'arrive pas en fait à laisser comme ça que les choses coulent et que ce soit plus
harmonieux.
Prenne en compte plus son côté à elle.
Docteur Benoît.
Alors, je pense que vous êtes dans une période de transition éducative, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit répéter sans cesse la même chose, et l'éducation, c'est aussi la répétition. Parfois, on est un peu fatigué de ça. On se dit, mais alors, je lui expliquais pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Est-ce que c'est parce qu'il me prend pas en compte? Est-ce que c'est parce que je fais mal? Non, en fait, souvent, bah, éduquer, c'est répéter, et donc il y a des phrases comme ça où il faut recommencer. Je pense que vous vous débrouillez très bien, vraiment, d'avoir la possibilité à la fois de lui poser des limites. Et puis de lui donner un cadre de confiance. Ce qui est important pour les adolescents, c'est qu'ils sentent que finalement l'amour et la confiance quelque part sont inconditionnels, c'est-à-dire que ce sont des personnes, on les prend en compte. Après, si eux ont envie que le quotidien soit pollué par plein de critiques et de remarques parce que finalement ils ne font rien et qu'on est obligé de répéter et que la soirée est finalement désagréable, il faut pouvoir leur dire, voilà, si tu ne fais pas les choses, je vais être obligée de répéter sans cesse et ça va être fatigant. Peut-être que si tu les fais un petit peu plus facilement, on pourrait passer la soirée à faire d'autres choses.
Camille parlait de négociation. Est-ce que c'est une bonne chose de négocier avec les adolescents parce que c'est très fatigant parfois pour les parents?
Alors, c'est très fatigant et ça dépend ce sur quoi on négocie. Est-ce qu'on négocie pour que l'enfant soit ou l'adolescent soit toujours satisfait, qu'il soit pas frustré, qu'il nous donne toujours l'impression de nous aimer? Non, ça non, parce que il y a des valeurs à transmettre, des règles à la maison et il faut qu'il les applique. Par contre, la négociation, c'est plus le recadrage, c'est-à-dire qu'il faut expliquer expliquer sans cesse pourquoi est-ce que on est obligé d'avoir des règles, pourquoi est-ce qu'on vit ensemble, etc. Que le dialogue soit possible. Mais c'est pas une négociation sur la règle, c'est-à-dire que la règle, elle sera appliquée de toute manière.
Mais est-ce que vous êtes partisane d'un contrat, entre guillemets, par exemple, vraiment prendre des choses très très concrètes? Tu ranges ta chambre régulièrement, tu mets ton linge sale dans le bac à linge, des choses comme ça. Et du coup, avec peut-être, est-ce qu'il faut prévoir une sanction si le contrat n'est pas respecté?
Alors oui, c'est possible. Ce qui est important, c'est que la sanction soit proportionnelle au problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire tu seras privé de vacances pendant 2 mois si tu n'as pas rempli le bac à linge. On voit bien qu'on ne pourra pas tenir cette punition, déjà, et en plus qu'elle est beaucoup trop excessive par rapport au problème présenté. Ce qui est important, c'est d'avoir du coup une punition qui est à la fois dans la quantité, dans sa durée et dans sa nature, qui ressemble un petit peu au problème qu'on essaye de choisir. Par exemple, si tu ne ranges pas tes affaires dans le bac à linge et que tu n'aides pas à faire le bac à linge, on ne va plus laver tes vêtements pendant une semaine. Voilà. On parle de vêtements sales, propres, et c'est à peu près juste. Moi, j'ai par exemple un exemple de parents que je vois et qui ont parfois du mal à faire lever leur enfant le matin. Il veut pas aller à l'école, c'est difficile, il traîne, etc. Tous les matins, il perd une demi-heure parce qu'il faut le sortir du lit. Bon, eh bien, les matins où il a du mal à se lever, eh bien, le soir, il est obligé de se coucher 30 minutes plus tôt. Voilà, s'il a du mal à se lever le matin, c'est qu'il est fatigué, hein, et l'enfant comprend très vite. Voilà, ce qui est plus problématique pour les enfants, c'est quand la sanction est très différente du problème et qu'elle est excessive.
Camille, est-ce que l'on a répondu aux questions que vous posez?
Oui, certes. J'avais aussi une autre question, si c'était possible.
Allez-y.
Eh bien, en fait, je me pose des questions sur l'acceptation du corps de l'adolescent et, dans le cas des filles, de commencer à se maquiller, se peindre les ongles, etc. Dans le cas présent, elle a 14 ans, on a été strict sur ce qui est les ongles de gel, etc., les histoires de manucure, parce qu'on trouve qu'elle est trop jeune. Mais moi, ça me pose cette question de dans quelle limite on laisse avancer le maquillage et toutes ces choses artificielles, ne vient pas un peu faire écran à s'accepter comme je suis maintenant dans ce corps qui grandit, etc.
Docteur Lélia Benoît.
Mais je pense que la réponse est dans la question et que vous avez déjà très bien répondu. Effectivement, se cacher derrière le maquillage, c'est une manière d'avoir une apparence qu'on peut contrôler, ce qui est parfois rassurant pour les adolescents parce que leur nouveau corps leur fait un petit peu peur. Je pense que vous avez tout à fait le droit d'avoir des règles familiales, c'est-à-dire chez vous, on ne se maquille pas avant tel âge, et vous l'avez déjà très bien expliqué. Vous pouvez avoir confiance dans la légitimité de ces règles. Vous avez le droit de dire que votre fille ne se maquille pas jusqu'à tel âge. Et effectivement, de lui expliquer, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de négociation, c'est pas de la négociation, c'est de l'explication. Vous pouvez lui expliquer à votre fille, voilà, c'est joli de se maquiller un petit peu pour rehausser quelque part sa beauté, mais il faut pas que ce soit un masque, et c'est d'abord important, avant de pouvoir se maquiller pour rehausser sa beauté, d'accepter sa beauté telle qu'elle est. Et pour ça, rien de mieux que de se regarder tel qu'on est, grandir tous les jours.
Merci beaucoup Camille d'être intervenue dans Priorité Santé. Bonne journée à Barcelone. On a Anne au bout du fil. Anne qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous élevez seule votre fille de 13 ans et vous avez un petit problème avec votre maman par rapport à l'éducation de votre fille. Racontez-nous.
Oui, alors ce qui se passe en général, c'est que dans mon éducation, je suis beaucoup plus stricte. Et puis ma mère, c'est un peu le banc de velours, en fait. Et derrière ça, ma fille se cache un peu sous les jupons de sa grand-mère, ce qui est un peu normal. Et derrière, ça vient un peu taper mon autorité. Donc du coup, je sais pas comment faire comprendre que, voilà, grand-mère doit être gentille, mais je me dois aussi d'être stricte, parce que derrière, c'est moi qui ai le mauvais rôle, en fait.
Docteur Lélia Benoît.
Alors, je pense qu'il va falloir discuter effectivement avec votre mère sur le rôle des adultes à avoir pour entourer un adolescent, pour l'aider à grandir. Il faut que les adultes soient d'accord. Et ça, c'est important parce que les adultes ont besoin de soutien. Là, on voit à travers toutes les questions que on se pose des questions, on a besoin d'être épaulé par les autres adultes. Et aussi, c'est important pour l'adolescent qu'il se rende compte que les adultes se respectent entre eux, s'écoutent et s'apportent de bons conseils. Donc ça, je pense qu'il faudrait vraiment en discuter avec votre mère pour pouvoir lui dire que vous avez besoin de son soutien. Après, même avec son soutien, c'est pas mal d'avoir une grand-mère finalement qui est un petit peu gentille. Ça permet au moins d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui peut dire oui, je te comprends, etc. Le fait que les rôles soient différenciés, c'est pas grave. Par contre, il faut que la grand-mère puisse vous soutenir malgré tout, en disant « oui, moi je suis ta grand-mère, je comprends, c'est dur, etc. » C'est vrai qu'elle est dure, mais ta maman fait ça pour ton bien. Elle essaye avant tout de te donner une bonne éducation. C'est vrai qu'elle est seule. Et voilà, donc c'est des choses que la grand-mère peut dire tout en étant plus souple finalement que vous. Ça, c'est important. Mais il faut que vous puissiez vous sentir soutenue. Et vous, à l'inverse, qu'elle vous rassure suffisamment hein, pour que vous puissiez être tranquille en sachant que votre fille va voir sa grand-mère pour se faire chouchouter, mais que bon, c'est le rôle de la grand-mère, mais qu'elle va pas empiéter sur votre éducation.
Merci Anne et bonne journée à Douala. On va faire une pause musicale avec quelqu'un qui s'amuse à les dépasser, Julien Doré, Les Limites.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en roman. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris.
Priorité santé consacrée aujourd'hui aux adolescents entre laxisme et rigidité. Comment les gérer? On continue d'en discuter avec le docteur Lélia Benoît et l'on rejoint maintenant au Sénégal le docteur Lamine Fall. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fane à Dakar. Docteur Fall, si vous deviez qualifier l'éducation des adolescents au Sénégal, est-ce qu'elle est plutôt rigide, plutôt laxiste ou est-ce qu'il est difficile de généraliser?
Je dirais que difficile de généraliser. Toutefois, donc, on peut considérer le contexte culturel, dire que c'est plutôt rigide quand tout se passe normalement, parce qu'il y a une grande difficulté pour le moment, pour l'ensemble, en fait, la majorité des parents, de distinguer l'enfance de l'adolescence. Très souvent, donc, les adolescents sont considérés comme des enfants, et donc, ils doivent obéir aux ordres des parents strictement, sans parfois même donner leur avis, ou en tout cas prendre une position personnelle. Donc, ce qui effectivement conduit quelquefois à des blocages, donc notamment quand l'adolescent veut vraiment s'approprier les choses.
Et est-ce que les châtiments corporels sont encore fréquents?
Ah oui, tout à fait. Effectivement, dans les cas que nous recevons très souvent, effectivement, il est pas rare donc que les parents arrivent à des châtiments corporels, ou alors même parfois, disons, craignant peut-être même de les blesser, en tout cas d'arriver à des extrêmes, de les envoyer dans des daras, disons très loin donc de la famille, dans des situations où quelquefois les conditions sont extrêmement difficiles aussi bien au niveau physique que même psychologique. Donc c'est quelquefois aussi une position que certains parents adoptent pour redresser, disons, pour employer leur terme, hein, redresser leur gosse afin, disons, qu'ils se rendent compte que voilà, il a fait tout à la maison et que voilà, il devrait écouter et suivre les ordres des parents.
Est-ce que ça veut dire que la façon d'élever les ados n'est pas un sujet de débat au Sénégal, alors qu'il l'est régulièrement en France, par exemple ?
Oui, disons, ce qu'on entend généralement, c'est que les parents ont démissionné. Hein. Donc ça, c'est effectivement, quand le débat se pose, c'est la conclusion assez hâtive, à mon avis, qui est posée. Et je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc quand, disons, nous rencontrons ces parents, très souvent, c'est des parents qui sont, disons, perdus. Hein. Donc ils cherchent des solutions. Ils ont souvent cherché plusieurs solutions, mais je crois que localement, on leur propose beaucoup de possibilités. Disons, il y a des services d'éducation spécialisés, il y a énormément de services qui existent, mais avec des personnels très réduits, ce qui fait que l'accompagnement de ces jeunes, des parents également, n'est pas toujours, disponible. Donc, ce qui fait que beaucoup de parents s'en remettent à des marabouts, à des structures traditionnelles qui offrent effectivement des possibilités pour certains enfants de rencontrer, disons, des situations très très rigoureuses qui tranchent avec effectivement ce qu'ils ont l'habitude de vivre en famille. Donc, mais il faut aussi souligner que certains parents n'ont pas du tout le temps, effectivement, avec les conditions socio-économiques très difficiles parfois, de s'occuper du tout de leurs enfants. Effectivement, c'est quand nous les voyons moins, mais ce sont des enfants qui se retrouvent dans la rue simplement, donc abandonnés à eux-mêmes. Et là, effectivement, c'est quelquefois le rejet. Hein. Donc, c'est des enfants à qui on dit, voilà, tu restes à la maison, tu fais ce qu'on te demande, sinon tu prends la porte. Donc, effectivement, c'est une rupture qui n'est pas souhaitable et qui, quelquefois, effectivement, conduit à une véritable maltraitance.
Et d'après votre expérience, quels sont les principaux sujets de conflit entre parents et adolescents au Sénégal?
Bon, le plus souvent, quand effectivement les parents arrivent, d'abord il y a l'école. Il y a l'école, disons, les enfants adolescents, très souvent, donc préadolescents parfois, montrent déjà des réticences quelquefois par rapport à l'école, parfois présentent des troubles, disons, de la violence, de l'agressivité, en tout cas des problèmes de discipline en classe. Et effectivement, la réaction des parents est très variable. Et malheureusement, quelquefois, quand la position, en fait, quand l'enfant ou l'adolescent n'est pas entendu sur sa position pour peut-être s'approprier les choses au niveau personnel par rapport à la loi, on en arrive quelquefois à des véritables ruptures, aussi bien dans la communication avec les parents qu'avec même les autres adultes. Donc, comme ça, certains enfants sont complètement exclus. Il nous arrive quelquefois de les remettre dans le circuit, mais avec énormément de difficultés, avec énormément aussi de négociations. Et je pense que là, c'est notre position de tiers, disons aussi, et c'est une position importante qui est en train de disparaître, disons, les oncles, les tantes, les grands-parents, disons, qui intervenaient dans les relations entre parents et adolescents, interviennent beaucoup moins, ce qui fait que les risques de rupture sont beaucoup plus importants. Et très souvent, malheureusement, il n'y a pas, d'intermédiaire, il n'y a pas de recours pour, disons, réduire les tensions entre parents et adolescents.
Docteur Lamine Fall, quel est le message que vous voudriez faire passer aux parents, s'il y en a un?
Oui, je crois qu'il est extrêmement important que les parents se rendent compte que lorsque leur enfant arrive vers 10 ans, disons autour de 10 ans, effectivement, il arrive des transformations aussi bien physiques aussi que psychologiques qui font qu'effectivement, ce n'est plus tout à fait un enfant et il n'obéit plus systématiquement comme un enfant. Ce qui fait qu'il a besoin de s'approprier les choses, il a besoin de faire des expériences, il est important de l'accompagner et cela nécessite donc de garder la communication donc avec lui, de garder la possibilité d'échanger sur ce qui se passe pour lui permettre effectivement de mieux intégrer la loi et effectivement de mieux intégrer les valeurs culturelles, notamment les valeurs liées à la hiérarchie, liées aux âges et au sexe dans notre contexte, mais également d'autres valeurs aujourd'hui qui sont effectivement en train de disparaître, notamment des valeurs de Djom, comme on dit ici, de Sutura, etc. Donc des valeurs effectivement qui sont des valeurs importantes dans notre culture et qu'aujourd'hui effectivement beaucoup de familles sont en train de bafouer et qui se retournent effectivement contre eux.
Merci beaucoup, docteur Lamine Fall. Docteur Lélia Benoît, on en revient à ce leitmotiv finalement, maintenir le dialogue entre parents et enfants, c'est ça le plus important.
Tout à fait, c'est maintenir effectivement l'empathie, la bienveillance et puis faire le crédit à l'enfant qu'il a des bonnes intentions ou à l'adolescent qu'il a des bonnes intentions, c'est-à-dire il n'a pas fait ça exprès pour me faire du mal ou pour être pénible ou parce qu'il est méchant. Non, en fait, il a fait ça parce qu'il cherche à comprendre les règles du jeu.
Il faut que les parents dédiabolisent leur enfant, leur adolescent.
Tout à fait.
On a Jacqueline qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Vous élevez deux adolescentes et ce qui est intéressant, c'est que l'éducation que vous leur donnez est très différente de celle que vous avez reçue.
Exactement, exactement. Catégoriquement différente en fait.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que moi j'ai...
Votre père était...
Du côté de mon papa, moi, j'ai eu une éducation
très sévère,
totalement un peu militarisée, quoi.
Et aujourd'hui, comment vous...
C'est-à-dire,
oui.
C'est-à-dire lui, il dit, il parle et nous, on exécute. C'est comme ça.
Ah voilà, une éducation presque militaire.
Presque militaire, voilà.
Et alors vous, vous avez
donc,
voulu
moi,
prendre le contre-pied de cette éducation avec votre fille et votre
exactement.
Nièce.
Exactement.
Et alors comment ça, et comment ça se passe?
Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, évidemment, rien n'est jamais parfait. Il y a parfois quelques difficultés, surtout avec la plus jeune, c'est-à-dire ma nièce.
Elle a quel âge?
Elle a 13 ans.
D'accord. Donc en fait, vous, ce que vous essayez de faire, c'est de les responsabiliser, c'est bien ça? Par le dialogue, par l'explication.
Exactement. J'essaye de les responsabiliser. Alors, j'essaie de revenir tout à l'heure sur ce que le professeur il a dit tout à l'heure. La négociation, c'est très important avec les adolescents, en fait. Moi, j'essaie de négocier, mais ce n'est pas une forme de complaisance. Non. C'est plutôt d'essayer de leur faire voir par eux-mêmes que si je fais ci, c'est mieux pour moi. Si je fais ça, c'est pas bon pour moi. Vous voyez, les enfants, en réalité, ils sont bien plus intelligents que ce que l'on pense.
Docteur Lélia Benoît, vous voulez réagir au témoignage de Jacqueline?
Oui, tout à fait. Alors Jacqueline, déjà, elle a fait quelque chose de très bien, c'est qu'elle s'est posé la question de l'éducation qu'elle a reçue et de ce qui avait été trop difficile pour elle, de ce dont elle a manqué. Donc visiblement, elle a manqué quand même d'empathie, de compréhension de la part de son père qui était visiblement trop strict. Et ce qui est important dans la négociation qu'elle dit, c'est effectivement, il faut pouvoir expliquer puisque l'enfant ou l'adolescent voit un univers très petit et centré autour de lui, de ce dont il a besoin de manière assez immédiate. Et finalement, il faut élargir son univers, lui dire, d'accord, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses, tu oublies les conséquences, etc., etc. Et finalement, quand il a tout l'ensemble de l'explication, y compris ce que ça représente pour ses parents, est-ce que c'est plus difficile pour ses parents quand il fait ça, etc. Et ben, ça l'aide vraiment à faire le meilleur choix pour lui et pour les autres.
Et alors Jacqueline a prononcé un mot, complaisance, donc il faut discuter, éventuellement négocier, mais sans tomber dans la complaisance ou la démagogie.
Tout à fait. Expliquer le choix qu'on fait, ça revient pas à renoncer à ce choix ou à donner raison à ses enfants. Ça veut juste mettre les sous-titres. Hein. C'est mettre les sous-titres à ce qu'on a fait, expliquer pourquoi on l'a fait et pour quelles raisons on pense que c'est bien pour l'enfant.
Merci Jacqueline pour votre question. Hein, et bonne journée à Lomé.
Allô ?
Oui, Jacqueline, vous aviez encore une question peut-être ?
Oui, excusez-moi. Il y a quelque chose qui me tient à cœur.
Alors allez-y.
En fait, c'est une question qui me revient à mon égard, donc j'aimerais profiter de votre antenne pour y répondre. Alors, je veux que les mamans et les parents comprennent une chose, en tout cas dans mon environnement. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que tu es sûr que ça va marcher si tu fais ci, si tu fais ça? Je n'en suis jamais sûre. Il y a une chose que les parents doivent savoir, c'est que à l'adolescence, on pense, on est tous passés par là. On pense qu'on connaît tout, en fait. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une fille de 18 ans qui, jusqu'à pas longtemps, pensait en fait que moi, je connaissais pas grand-chose, que c'est elle qui allait m'apprendre des choses. Donc, il a fallu que tout doucement, vous voyez, tout doucement, qu'on discute, qu'elle finisse par comprendre que, bon, ben, peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas qu'elle connaît, il y a des choses qu'elle, elle ne connaît pas, que moi, je peux lui apprendre aussi, quoi. Vous voyez, c'est un univers de tu m'apprends, je t'apprends.
Voilà, il faut qu'il y ait un échange.
Exactement, un échange, et puis que les parents aient confiance dans leur capacité de parents et dans leur expérience. C'est exactement ce qu'a Jacqueline, elle a confiance dans ses capacités. Donc même quand elle doute, elle réussit petit à petit à avancer, à dialoguer. Et on voit que c'est ça qui aide les enfants quand ils grandissent et qu'ils deviennent adolescents puis adultes, à tâtonner dans la vie, c'est-à-dire on avance un petit peu, on essaye quelque chose, parfois on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, mais finalement on se relève et on marche. Et c'est ça la vie, et c'est ça leur apprendre en fait.
Merci beaucoup Jacqueline, bonne journée à Lomé. Le professeur Lamine Fall parlait tout à l'heure de l'échec scolaire. Est-ce que vous pensez que les parents sont aujourd'hui un peu trop obnubilés par les performances scolaires de leur enfant ou de leur adolescent et que ça devient un point de fixation?
Alors, les performances scolaires, c'est important, puisqu'on sait bien que sans diplôme à l'heure actuelle, on est beaucoup menacé par le chômage, donc les parents ont quelque part raison de s'inquiéter des résultats scolaires. Le problème, parfois, c'est que on ne s'occupe que des résultats scolaires, et donc on ne s'occupe de l'enfant qu'à partir du moment où il diminue ses résultats scolaires, où il est en échec scolaire. Et ça, c'est très compliqué pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui disent « Moi, de toute manière, mon papa ou ma maman, ils s'intéressent à moi que pour me poser des questions sur l'école. » Donc ça donne l'impression aux enfants qu'ils ne sont pas aimés, appréciés, respectés pour ce qu'ils sont, en fait, en tant que personnes, de manière inconditionnelle, mais uniquement pour satisfaire, finalement, les exigences des parents. Et ça, c'est très compliqué.
Parce que les parents rêvent souvent de voir leur enfant réussir ce que eux n'ont pas réussi, c'est ça ?
Tout à fait. Très souvent, chez les parents qui mettent beaucoup de pression à leur enfant à l'école, il y a la crainte d'avoir eux-mêmes raté quelque chose, de ne pas être assez compétents pour emmener leurs enfants jusqu'au bout. Et au lieu de pouvoir expliquer à l'enfant que ils souhaitent qu'il aille loin, mais que eux aussi, parfois, ils ont eu des doutes, ils ont eu des difficultés, mais qu'ils seront là pour les aider, ils peuvent avoir tendance à leur mettre la pression, ce que les enfants vivent assez mal.
Mais en même temps, c'est facile de conseiller à des parents de baisser la pression quand les choses se passent plutôt bien, mais quand un ado est en situation de décrochage scolaire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, on ne reste pas seul, c'est important, puisque c'est des situations qui sont très inquiétantes pour les parents, et souvent, ils réagissent de manière un peu excessive dans ces cas-là. Je pense que ce qui est important, l'échec scolaire, le décrochage, c'est une difficulté dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de difficultés dans la vie. On peut avoir une maladie, une rupture amoureuse, une difficulté quelle qu'elle soit. Là encore, l'important, c'est que les parents puissent expliquer à l'enfant, voilà, d'abord, tu resteras pas seul. On reste ensemble. C'est pas parce que je suis déçue par les résultats scolaires que tu n'es plus mon enfant. Ça, c'est important de le dire. Et puis ensuite, on va recommencer petit à petit à travailler, à faire ce qu'il faut, à mettre un pas devant l'autre, à faire des efforts, surtout, à travailler, puisque on veut que ça fonctionne à nouveau. Et en définitive, j'ai confiance, même si c'est pas avec l'école ou avec les résultats scolaires, j'ai confiance dans le fait que tu vas devenir un adulte qui réussira dans la vie quelque chose et qui mènera une belle vie. C'est important pour les adolescents de savoir que même s'ils déçoivent leurs parents, parce que parfois, peut-être qu'ils réussiront pas à l'école, voilà, mais qu'on sait qu'ils vont faire des choses et qu'ils seront heureux et que c'est des personnes belles et bonnes. Et ça, ils en ont vraiment besoin pour grandir.
Alors, il y a un autre sujet qui revient fréquemment quand on parle des adolescents, c'est leur addiction aux écrans en tout genre. À quel moment doit-on s'inquiéter ?
Alors, l'addiction aux écrans, c'est un vaste sujet, ça vaudrait presque une émission entière. Alors, je pense que là, il y a au moins deux choses à dire. C'est une première chose que les parents sont les exemples aussi. Notre manière à nous d'être accro à nos téléphones portables, c'est important de s'en rendre compte avant de juger les enfants.
Voilà, si on vient dîner à table avec son propre téléphone portable, ça va pas.
Voilà, l'éducation, c'est vraiment l'exemple. Autre chose aussi qui est que les enfants ont des besoins, enfin les adultes aussi, très simple, c'est-à-dire qu'on a besoin de sommeil, on a besoin de se nourrir, on a besoin de faire du sport. Et ces besoins qui sont essentiels, physiques, souvent peuvent être mis à mal par les écrans. Et ça, c'est des choses qu'on doit vraiment garder en tête. Un enfant, même s'il a le droit, bah, comme les autres, d'être sur des réseaux sociaux, d'utiliser la technologie qui va être la technologie d'aujourd'hui et qui sera encore plus celle de demain, et bah, il ne faut pas que cette technologie l'empêche de subvenir à ses besoins vitaux, ça veut dire dormir, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne éducation. Donc à partir du moment où on s'est débrouillé pour que la technologie, les écrans n'interfèrent pas avec ça, déjà...
Donc ça veut dire qu'on ne laisse pas, par exemple, l'adolescent dormir avec l'ordinateur, la tablette ou le téléphone portable dans sa chambre.
Tout à fait. Moi, ce que je conseille aux parents que je vois, c'est à partir d'une certaine heure, 21h, 22h si c'est des grands ados, on arrête les écrans, on rend le téléphone portable, on ne dort pas avec le téléphone portable ni la tablette dans sa chambre. Et l'ordinateur, quand c'est un ordinateur fixe avec une tour, qui n'est pas un ordinateur portable, le mieux c'est qu'il ne soit pas dans la chambre, puisque c'est vraiment très tentant, alors que finalement, il y a des heures pour tout, et il y a des heures qui sont faites pour lire au lit ou pour dormir.
Et si l'adolescent commence à s'isoler dans sa chambre, à prendre ses distances, est-ce qu'on doit s'inquiéter ?
Alors, un adolescent qui s'isole, c'est un signe de mal-être, finalement.
Même si en même temps, il a droit, vous le disiez tout à l'heure, à son intimité.
Alors, oui, l'intimité, c'est pareil, hein, c'est des moments dans la journée, c'est des moments où on peut être seul dans sa chambre, mais ça peut être le soir ou un petit peu le matin. Ça n'empêche pas normalement de sortir, d'avoir des amis, de continuer sa vie comme d'habitude. Un adolescent qui s'isole, c'est un adolescent qui fait plus les activités qu'il aimait auparavant, qui ne voit plus ses copains comme avant, qui reste beaucoup trop enfermé, qui finalement ne joue plus non plus dans sa famille, ne voit plus les autres. Et ça, c'est un signe de mal-être. Ça vaut le coup d'en parler et éventuellement d'aller consulter un psychothérapeute, un psychiatre,
médecin. Et est-ce qu'il y a encore une réticence de la part des parents à justement faire cette démarche, aller voir un pédopsychiatre ou un psychothérapeute ?
Tout à fait, les psys font peur, hein. C'est-à-dire que on se demande des fois, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc oui, je pense que ce qui est important, c'est déjà d'en parler dans le cercle familial aux amis, ne pas rester tout seul, et puis ensuite aller voir un médecin, et savoir que finalement, un psychiatre ou un psychologue diplômé, c'est quelqu'un qui est spécialiste de ces questions-là, avec qui on pourra parler, et qui va pas porter de jugement négatif.
Et pour vous, il n'est jamais trop tard. On peut toujours régler un problème.
Oui, on peut toujours régler un problème, et souvent, les parents s'inquiètent de leur enfant, de leur adolescent, et ils pensent pas à consulter pour eux. Alors que pour beaucoup de parents, c'est très utile finalement que eux consultent en disant « voilà, je cherche des conseils, j'aimerais bien avoir un peu d'aide ». Et finalement, ça aide leurs jeunes de manière indirecte, parce qu'eux-mêmes se sentent soutenus. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi.
Donc une thérapie familiale, vous c'est quelque chose que vous recommandez souvent ?
Soit une thérapie familiale, oui, ou une thérapie pour les parents eux-mêmes, une thérapie individuelle, mais en tant qu'adulte qui doit s'occuper d'un adolescent et qui a besoin d'un peu d'écoute, de soutien aussi.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui reprochent aux pédopsychiatres de tenir par rapport aux ados un discours un peu permissif qui, en filigrane, serait une critique de l'autoritarisme des parents ?
Alors, dans mon expérience quotidienne, c'est pas vraiment le cas. Alors peut-être en psychologie, je dirais, de la psychologie des dernières décennies, hein, qui était de « il faut comprendre l'enfant, il faut l'aider », etc. Je pense que ça a été une étape très utile, très importante, puisque avant, on était quand même dans des modes d'éducation très rigides, avec beaucoup de violences physiques, des violences psychologiques, des violences verbales, qui étaient quand même importantes, et puis beaucoup de carences. Je pense que ça a eu effectivement l'intérêt d'ouvrir un univers sur qu'est-ce que pouvaient penser les enfants. Et ça, c'est très important. Mais quand on voit des témoignages comme celui de Jacqueline, qui n'a pas apprécié son éducation trop rigide, mais qui prend le temps d'expliquer aux adolescentes qu'elle élève ce qu'elle veut faire, ça ne veut pas dire qu'elle est laxiste ou qu'elle est permissive. Ça veut juste dire qu'elle les comprend finalement. Elle s'intéresse à eux et elle leur donne des mots pour comprendre.
Merci beaucoup, docteur Lélia Benoît, d'avoir été notre invitée et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
On va terminer cette émission avec un succès, celui d'un essai clinique en thérapie génique mené par l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris en collaboration avec l'Institut Imagine. C'est le New England Journal of Medicine qui révèle les résultats intermédiaires très positifs de cet essai qui vise à guérir ou améliorer l'état de santé de patients qui souffrent de bêta-thalassémie. Isabelle André-Schmutz, bonjour.
Bonjour.
Vous co-dirigez le laboratoire de l'infohématopoïèse humaine à l'Institut Imagine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est cette maladie rare, la bêta-thalassémie ?
Alors la bêta-thalassémie, en fait, c'est une forme d'anémie d'origine génétique. Et là, on s'intéresse en fait à des patients atteints de bêta-thalassémie majeure, qui est la forme la plus précoce et la plus sévère de la maladie. C'est des patients qui vont être diagnostiqués entre 6 et 12 mois à cause d'une anémie, d'une pâleur, d'un retard de croissance, et chez qui on va poser le diagnostic moléculaire de la maladie. Ils ont besoin de transfusions régulières, en général plus de 8 par an, et de traitement pour empêcher les dépôts de fer qui s'accumulent dans les différents tissus. Hein.
Alors aujourd'hui, en quoi consiste ce nouveau traitement issu de la thérapie génique ?
Alors le traitement consiste à prendre les cellules souches qui sont présentes dans la moelle osseuse des patients, à les prélever et à les corriger génétiquement en culture. On va rajouter en fait dans ces cellules une copie saine du gène qui est muté chez ces patients et ensuite on va greffer ces cellules par voie sanguine aux patients qui sont atteints de cette maladie. Donc les cellules souches vont aller se nicher dans la moelle osseuse et vont produire des globules rouges qui vont être normaux, qui ne vont plus présenter donc cette anomalie d'hémoglobine qui rend ces patients anémiques.
Alors à mi-chemin de l'essai clinique, qu'est-ce qui a radicalement changé dans la vie des patients traités ?
Alors c'est que pour la plupart des patients, en fait, ils sont complètement transfusion indépendants, ils n'ont plus besoin de transfusion. Les traitements aussi qui sont utilisés pour les dépôts de fer ont été considérablement réduits. Donc c'est des patients qui sont pour la plupart considérés comme guéris, alors que normalement sans ce traitement, ils auraient besoin de transfusion à vie. Et à cause des complications liées au dépôt de fer, ils ont des complications au niveau de la thyroïde, des complications cardiaques, des complications du foie, diabète, ostéopérose, qu'ils ne vont plus avoir ou qui vont être réduits.
Alors il faudra attendre combien de temps pour que cet essai clinique sur 22 patients hein, seulement dans le monde profite aux quelques 288 000 personnes atteintes de bêta-thalassémie ?
Oui, c'est une excellente question en fait parce qu'effectivement là pour l'instant cet essai a été réduit à des patients qui sont situés dans des pays, on va dire, dans lesquels les infrastructures permettent ce genre de traitement de pointe. Là, notre but, c'est, on a compris pourquoi chez certains patients, déjà, le traitement était partiellement curatif. Donc, on va encore l'améliorer. On est en train de l'améliorer. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir modifier ce traitement de manière à ce qu'il soit applicable partout dans le monde, quelles que soient les conditions de vie des patients, et en particulier pour les patients en Afrique, en Asie du Sud, qui n'ont pas accès aux transfusions et aux traitements chélateurs de fer.
Et est-ce que ce nouveau traitement coûte cher ou coûtera cher ?
Oui, alors pour l'instant, c'est un traitement extrêmement coûteux et c'est là-dessus aussi qu'on travaille, c'est d'essayer de réduire le coût de traitement au maximum afin qu'il puisse bénéficier à tous les patients dans le monde. Ça va être un énorme travail pour les années à venir.
Merci beaucoup Isabelle André-Schmutz. Je rappelle que vous co-dirigez le laboratoire de l'infohématopoïèse humaine à l'Institut Imagine, partenaire de cet essai clinique d'un nouveau traitement de thérapie génique pour soigner la bêta-thalassémie. Essai mené par l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Sétou Samaké et Ophélie Lassène qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée. Demain, journée mondiale contre le paludisme. Nous ferons le point sur cette maladie transmise par le moustique, sur les traitements les plus efficaces, sur la recherche. Pour poser vos questions, notre numéro de téléphone 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr. Emmanuel Bastide, de quoi allons-nous parler ? Alors on écoute d'abord la pub Assurance et on se retrouve Emmanuel Bastide dans un instant.
C'était Priorité Santé. l'été avec Sunou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Emmanuel Bastide, voilà, c'est bon. On vous retrouve dans 10 minutes.
Je suis bien là, Chantal, tout va bien.
Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans 7 milliards de voisins?
Eh bien, nous allons parler des tendances de la mode avec notre partenaire, le magazine Brune. Et puis aussi un débat, on va parler de la mode du court. Les jupes de patineuse, les boom-boom shorts. Où se situent les frontières du court? Trop court, scandaleusement court. Je vous donne le numéro de notre WhatsApp dans quelques minutes.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Aujourd'hui,
sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Pourquoi avons-nous toujours tendance à sous-estimer leurs capacités? Le primatologue Franz De Waal secoue notre cocotier.
Retrouvez Autour de la question du lundi au mercredi à partir de 14h10 TU sur RFI.